Divertimento. Bonjour, bonjour Christian.
Bonjour Natacha.
Nous allons pianoter.
Ah.
Hein, alors je vous ai ramené. Oui, mais pourquoi pas.
Sur un clavier, mais pas un clavier d'ordinateur.
Voilà. Pas le vôtre non plus, à la technique non plus. On va dire bonjour à nos auditeurs fidèles. Et je vous ai ramené un petit peu de musique. Je suis sûre que vous allez aimer parce que c'est un instrument qui passe bien, je veux dire, qui ne fait pas grincer des dents. Et parce que des fois, les gens me disent « Oh, le violoncelle, c'est triste. » Non, ce n'est pas triste, c'est des cordes. Et je trouve que c'est des instruments très romantiques.
Oui, voilà. Bien sûr.
Mais le piano aussi. Hein. Le piano aussi.
Puis
il a eu tellement aussi de bons interprètes.
Absolument.
De bons compositeurs et de bons interprètes.
C'est vrai, à travers les âges.
À travers les âges. Alors, on y va. Au XXe siècle, ce siècle est une époque de bouleversements techniques et de ruptures esthétiques qui voit apparaître de nouveaux langages musicaux. Alors, et remettre aussi en question la grammaire harmonique, c'est-à-dire la tonalité, établie depuis plusieurs siècles. Pour le piano, eh bien, c'est un véritable défi à relever, car l'instrument à clavier a été pendant deux siècles le socle de la tonalité. C'est précisément lui qui va offrir aux musiciens le moyen de s'émanciper, de développer aussi toutes les possibilités offertes par la tonalité. Alors, lorsque Harold Schoenberg, en 1874-1951, compose en 1909 trois opus, il bouleverse les habitudes et surtout les années d'habitude pianistique et ouvre la voie à une autre harmonisation. Franz Liszt aussi a beaucoup œuvré. Après la chute de l'Ancien Régime, une nouvelle société se met en place qui règne peu à peu, qui intègre plutôt peu à peu certaines aspirations de la Révolution. C'est surtout l'éducation pour tous et le suffrage universel qui exaltent l'individu dans son esprit d'entreprise et croit indéfectiblement en la science. Alors, nous allons écouter, je vous ai ramené un petit peu des choses. Bien sûr, Chopin, il est incontournable. Alors, je vous ai ramené le concerto en E mineur avec David Lively, Quatuor Gambini à Paris. C'est un morceau que vous allez aimer parce que c'est un joli, joli, joli morceau. Thank you. Alors Paris devient un centre musical européen de première importance. L'art lyrique s'impose sous la monarchie de Juillet avec le genre spectaculaire du grand opéra. Les salons continuent à être des lieux de promotion pour les jeunes artistes. Le piano y est un point d'attraction. Après 1830, le développement d'une société plus mêlée, où la moyenne et la petite bourgeoisie constituent à la fois un nouveau public et une nouvelle clientèle, cela favorise l'essor d'un monde d'audition jusque-là limité. Alors, le concert public et payant ouvre ses portes. La capitale accueille des pianistes virtuoses qui bénéficient d'un instrument dont les possibilités sont considérablement enrichies. Liszt s'installe à Paris en 1823 et bénéficie du soutien du facteur Sébastien Erhard. Tous ces interprètes jouent ensemble. Alors il y a bien sûr Chopin qui fait son apparition, lui, en 1831. Et tous ces interprètes jouent ensemble. Mais oui, parce que ils participent à des concerts collectifs, ce qui fait une grande animation où se succèdent diverses formations. Ils donnent des récitals, formules inaugurées par Liszt, rivalisant dans de véritables duels. Ça c'est bien parce que ça permet aux talents de s'exprimer. De véritables duels musicaux, par exemple, avec Liszt et Thalberg. Alors nous allons écouter quelque chose d'autre que je vous ai ramené. Le premier morceau, je l'avais choisi parce que je le trouvais très léger, très très agréable. Et là, nous allons écouter Alexandre Kantorov dans une valse numéro 39. Je vous laisse Christian la manette. Alors, on continue un petit peu. Il faut savoir que l'exécution du répertoire virtuose demande une plus grande vélocité. De nombreux inventeurs, assimilant l'acquisition d'une technique de jeu à entraînement sportif, mettent au point des appareils destinés à amplifier les possibilités digitales des pianistes. Le chirogymnaste Casimir Martin, en 1842, a pour but d'agrandir l'étendue de la main et d'obtenir une force égale à chaque doigt. L'assouplisseur de doigts, lui, qui est né en 1846 de Levaché-Hurclay, permet d'accomplir aussi des exercices musculaires. Alors il faut savoir que, signe de richesse et expression de modernité, le piano orne les intérieurs bourgeois. Il fait partie intégrante de l'éducation de toutes portent les jeunes filles de bonne famille. La pratique du piano par amateur se développe grâce justement à la démocratie des prix de vente et aussi de la location. Voilà, on va écouter un autre petit morceau. Et puis, je vous ai ramené... Ah oui, alors là, je vous ai ramené Liszt, bien sûr. Mais ce que j'ai... Vous allez la reconnaître, hein, ce morceau, il est terriblement bien connu. Mais j'ai choisi... Vous savez, il y a une émission à la télévision qui s'appelle Les Prodiges. Et il y a un petit jeune homme qui s'appelle Lucas, qui a gagné à Le Prodige 5. Et je voulais lui faire une petite place dans mon émission. Voilà, et j'ai choisi, bien sûr, la Campanella. Alors bien sûr, il a un grand talent, je lui souhaite bonne route. Alors bien sûr, je vais vous parler de la location des instruments qui a aidé bien sûr à développer ce genre de musique. Les cours de piano d'ailleurs aussi se multiplient. Le nombre de professeurs triple en 30 ans. Alors là, on y étudie les méthodes, Alors méthode, étude, sonate, fantaisie, marche, valse, transcription pour piano, tout ça fleurit. Et tant mieux pour nos oreilles, et tant mieux pour notre culture. La presse musicale aussi, elle prodigue beaucoup de choses. Elle est florifère à partir de 1830 et témoigne d'une vie artistique parisienne intense. Plusieurs revues sont consacrées au piano, telles que Le Pianiste, qui vit le jour en 1833. Le Piano Revue, lui aussi, et le journal mensuel du pianiste, qui lui vit le jour en 1876. Puis Le Piano Soleil, grand journal musical hebdomadaire, 1884. Puis Le Tout Petit Pianiste, lui, qui est apparu en 1895. Donc vous voyez qu'il y a beaucoup de choses qui ont bougé dans cette période. Et puis dans cette période mouvante, l'ordre sonore lui-même est controversé. Musique concrète, électronique, électroacoustique, les esthétiques se succèdent et coexistent, même se mêlent. Maurice Ravel utilise des formes anciennes d'écriture pour clavecin, par exemple dans Le Tombeau de Couperin. Stravinsky, lui, avec sa sonate en 1924 aussi. Béla Bartok a aussi œuvré dans cette chose-là. Puis Maurice Ravel, qui utilise cet instrument dans deux de ses compositions, le Tzigane en 1924 et l'Enfant au Sortilège en 1920. Le compositeur propose, pour remplacer le piano luthéal, de jouer sur un piano droit dans lequel on aurait placé des feuilles de papier entre les marteaux et les cordes. Voilà, je crois que je vous ai à peu près tout dit. Je reviendrai vous voir avec le piano, mais peut-être sous une forme musicale de jazz, parce que là aussi, ce piano a beaucoup servi. Quant à moi, je vais remercier Christian de m'avoir accompagné. On va écouter un dernier morceau que je vous ai ramené. Alors, c'est Debussy. Debussy avec l'incontournable, bien sûr, Clair de Lune. Au revoir, bonne semaine, et surtout, prenez bien soin de vous.